Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE, l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés et Pedro Araos, responsables du web, et sous la direction de Adrián Corol. Javier Milei a été élu président de l'Argentine et prendra ses fonctions le 10 décembre. Le candidat d'extrême droite a ratifié son intention de fermer la banque centrale et de faire avancer son projet de dollarisation qu'il avait présenté pendant la campagne. Il va également pousser à la privatisation des médias d'État. La télévision publique, l'agence de presse TELAM et Radio Nationale, à laquelle appartient cette station RAE. En ce qui concerne la compagnie pétrolière YPF, Milei a déclaré que son gouvernement chercherait à la récupérer et à la vendre à un prix avantageux pour les Argentins. Sur Aerolíneas Argentinas, le président élu a déclaré qu'il donnerait l'entreprise d'aviation aux travailleurs pour qu'ils puissent la gérer. L'objectif, a expliqué l'économiste, est de permettre à la compagnie de rivaliser avec d'autres compagnies aériennes sans soutien de l'État, dans le cadre d'une politique de ciel ouvert qui, selon les syndicats, conduirait à la faillite. Il a annoncé que son plan économique sera un plan de choc avec un engagement à générer un équilibre fiscal et il a admis que l'inflation pourrait se poursuivre pendant 2 ans après l'arrêt de l'émission monétaire. Il a également averti que son gouvernement répondrait aux protestations sociales avec toute la force de la loi parce que l'ordre doit se faire respecter. On partage une table ronde sur l'Argentine de Milei du programme C'est dans l'air sur France 5.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Entre l'État et la mafia, je préfère la mafia. C'est l'une des nombreuses sorties de celui qui est désormais le président argentin. Javier Milei, candidat anti-système de 53 ans, a raflé la mise avec près de 56% des voix. Ce libéral qui se dit anarcho-capitaliste, encore inconnu il y a 3 ans, s'est imposé avec une campagne menée tronçonneuse à la main pour couper dans les dépenses publiques avec la promesse de supprimer des ministères de la culture, de la santé et de privatement mais légaliser la vente d'armes, de drogue et la vente d'organes. Autant dire que son élection est vécue comme un choc. Celui qui est surnommé El Loco, le fou ou encore le Trump de la Pampa a surtout comme objectif d'adopter le dollar comme monnaie nationale dans un pays où l'inflation atteint 143%. Argentine, le fou entre guillemets, au pouvoir. C'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste sur France Inter et France Info TV. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Avec nous ce soir, Pascal Boniface. Vous êtes directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Je cite votre livre « Géostratégiques 2, les grands enjeux du monde contemporain » aux éditions d'Uno. Avec nous ce soir, Luisa Corradini. Vous êtes journaliste correspondante à Paris pour le journal argentin La Nation. Sylvie Matelli, vous êtes économiste, directrice de l'Institut Jacques Delors. Je rappelle votre livre Géopolitique de l'économie, publié chez Erol. Et puis nous sommes en direct ce soir avec Bruno Meyerfeld. Vous êtes correspondant au Brésil pour le journal Le Monde. Bonsoir à tous les 5.
Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Luisa Corradini, quand même. Il s'appelle Javier Milei, il a 53 ans et on l'appelle le fou. Il nous faut des explications. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le fou?
Mais il faudrait que vous m'autorisiez à dire ou à répéter des gros mots qu'il utilise tout le temps, parce que c'est comme ça qu'il parle, c'est comme ça qu'il a convaincu, ouais, surtout la jeunesse argentine. C'est un monsieur, comme vous disiez, 53 ans, économiste, anti-avortement, homophobe, transphobe, populiste.
Climato-sceptique, j'ai oublié dans la liste.
Climato-sceptique, effectivement. Et qui parle à l'esprit de son chien mort. Il a fait cloner son chien. Sept autres chiens. Et maintenant, chaque fois qu'il organise un meeting, il réserve la première file de ces meetings pour ses chiens qui ne viennent pas, naturellement.
Anthony Bélanger, voilà. sur le personnage, parce que c'est vrai que c'est... on avait vu Trump, on avait vu Bolsonaro, on va en parler ce soir. Là, on a l'impression qu'on franchit encore un cap.
Oui, c'est Trump au cube et Bolsonaro au carré. On peut le dire comme ça. Quand on lit la presse internationale, ce qui est fascinant, c'est d'essayer de regarder le nombre de surnoms qu'il collectionne.
Il y a le fou.
Il y a le fou. Il y a un mix de Boris Johnson et de Chucky. Vous savez, la poupée qui tue. Vous avez Wolverine aussi. Ça, c'est plutôt les Argentins, qui est notamment sa campagne de presse, sa communiqué de presse, qui explique que oui, en fait, c'est Wolverine, c'était, vous savez, un type dont on ne sait pas très bien où sortent les cheveux, mais qui en même temps est un espèce d'anti-héros. On ne sait pas très bien où il se situe dans la série Avengers. Enfin, le nombre de surnoms qu'il caractérise est absolument ahurissant. Effectivement, tout ce que vous avez dit est vrai, y compris le clone de ses chiens, y compris le fait qu'à la télévision, il passe son temps à détruire des maquettes de la Banque Centrale. Ça aussi, c'est son grand défi. Le message qu'il veut faire passer, et ce depuis le début, c'est qu'il veut tout détruire. Et j'allais presque dire à bon droit, parce qu'il n'y a pas une année que de ma carrière journalistique sans que je n'ai connu une crise en Argentine. C'est même devenu presque le leitmotiv de tous ceux qui s'intéressent à l'Amérique du Sud et qui s'intéressent au monde en général.
Et on va naturellement beaucoup en parler ce soir de la situation économique du pays, mais je voudrais aller au Brésil avec vous, Bruno Meyerfeld. Ça vous rappelle quand même des souvenirs. Il y a des parallèles qu'on peut faire avec Jair Bolsonaro et la façon dont il est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qu'on en dit au Brésil de l'élection de Javier Milei ?
Oui, bonsoir. Jair Bolsonaro, il est arrivé au pouvoir avec à peu près le même score que Milei, finalement, 55% des voix. Seulement, même au Brésil, où pourtant on a été assez habitué, voire vacciné au bolsonarisme, on trouve que Javier Milei est quand même un profil assez détonnant. Donc finalement, son surnom, le fou, est assez bienvenu ici aussi. Non, les Brésiliens commentent énormément cette élection. Il faut se rendre compte que la relation Brésil-Argentine, c'est comme la relation France-Allemagne finalement. C'est une relation de frères, jumeaux, même si le Brésil est beaucoup plus grand en Amérique latine. Globalement, on a une droite et une extrême droite, notamment Jair Bolsonaro, qui se réjouissent de l'élection de Javier Milei. Et on a une gauche qui, au contraire, perd, puisque les péronistes étaient au pouvoir, l'un de ses principaux alliés sur la scène latino-américaine. Donc c'est une élection extrêmement commentée. L'Argentine est le troisième partenaire commercial du Brésil et le Brésil est le premier partenaire commercial de l'Argentine. C'est les deux piliers du Mercosur, de l'intégration régionale. L'Argentine vient de rejoindre le club des BRICS, donc ça va avoir des conséquences bien au-delà de Buenos Aires.
Sur le personnage Pascal Boniface, on a l'impression qu'on va de surprise en découverte à chaque fois avec la victoire de candidats anti-système qui émergent comme ça. Alors, il y a une différence avec Bolsonaro qui, lui, était dans le paysage.
Oui, enfin, depuis peu quand même. Bolsonaro, il était discret, il était inconnu et puis il a explosé alors que lui, il part vraiment nulle part. Et puis, surtout, il est encore pire en termes de provocation, en termes d'apparente irrationalité. Ouais. Il dépasse de loin tout ce qu'on a connu. On a été étonné par Trump, on a été étonné par Bolsonaro, mais lui, là, il va encore beaucoup plus loin. Et en Argentine, donc un pays de culture, un pays que l'on connaît, un pays avec lequel quand même il y a une relation affective entre l'Europe, un pays qui se définit comme un pays occidental, d'extrême occident en Amérique latine. Donc ceci apparaît quand même tout à fait surréaliste. Et pourtant, c'est vrai, effectivement, il y a des raisons rationnelles à cette irrationalité.
Et ça, on va les détailler ce soir. Je voudrais juste qu'on reste un instant sur le personnage dans sa bio. On dit donc mère, femme au foyer, père chef d'entreprise de transport. Il s'oriente vers le foot et vers le rock, c'est ça son parcours.
Oui, il a même dirigé un groupe qui s'appelait Everest, un groupe rollingstonien, visiblement. Il a été coach tantrique, de sexe tantrique pendant des années.
Alors, ne demandez pas ce que ça veut dire. Il parle beaucoup de sa sexualité.
Il parle tout le temps. Encore une fois, je ne répéterai pas ce qu'il dit à l'antenne, mais le sexe tantrique, ne me demandez pas ce que c'est, mais visiblement, ça l'a occupé un certain temps. Il a une seule femme dans sa vie, c'est sa sœur, sa petite sœur, qu'il appelle El Jefe, la chef. Il est totalement instable psychologiquement, et c'est ce qui pose un problème, semble-t-il, aux Argentins, plus que ses politiques économiques, on en discutera, ou les choses qu'il tente de mettre en place.
Sylvie Matelli, un petit seconde capillaire, il dit « Je suis peigné par la main invisible du marché », parce que effectivement,
il est drôle, en fait.
Il est drôle, voilà, c'est ça, fou et drôle. Je ne sais pas si ça amuse tous les Argentins ce soir, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il a été élu, avec ses provocations, avec cette façon de mettre un coup de pied dans le système. Et c'est vrai qu'on commente, pour débuter cette émission, sa personnalité. On va entrer dans le détail de ce qu'il a représenté à un moment donné pour l'Argentine, pour qu'il l'élise à près de 56% des voix. Mais votre réaction sur le personnage ?
Alors déjà, force est de constater que le marché, c'est la jungle quand même. Et vraisemblablement, il a l'air d'apprécier la jungle puisqu'il prône le libre marché. C'est un personnage étonnant et détonnant. Il se dit économiste. Alors, il faudra peut-être qu'il nous explique les théories économiques qu'il a pu apprendre et qu'il a pu aller lire, parce que dans un certain nombre de ses mesures, on se demande s'il n'est pas aussi pro-suicide national. Alors, c'est vrai que l'économie argentine traverse depuis des décennies des difficultés. C'était une grande économie dans ce pays et qu'on se demande si on peut faire pire.
C'est vrai qu'il prône le libéralisme échevelé, sans mauvais jeu de mots, et son slogan c'était « Vive la liberté, bordel !» pendant toute la campagne, c'est ça. Hein. Alors, ce qu'il dit, je suis un anarcho-libéraliste.
Oui, c'est quelqu'un qui considère que l'État ne sert à rien, l'État ne doit pas intervenir, que la Banque centrale, alors là, la Banque centrale sert encore moins que l'État, et au fond que chaque individu est suffisamment adulte et mature pour savoir ce qu'il a envie de faire de son avenir et de son argent, donc il faut absolument laisser la liberté. Alors il faut quand même rappeler que le PIB par habitant des Argentins au début des années 80, c'est à peu près 70% du revenu par habitant des États-Unis. Donc on est sur une économie qui est extrêmement prospère dans une Amérique latine dans les années 80, qui est quand même relativement en voie de développement. Aujourd'hui, c'est 16%. Donc on voit l'affaiblissement, l'appauvrissement de la population argentine. On peut comprendre aussi qu'à un moment donné, ils ont voulu tenter le tout pour le tout.
Alors en tout cas, son surnom suffit à résumer l'outrance du personnage qu'on a bien compris depuis le début de cette émission. El Loco, le fou, devient donc à 53 ans le nouveau président argentin. Une victoire sans appel avec 56% des voix. Cet homme qui a déboulé dans la vie politique en 3 ans avec un credo libéral qui promet des coupes sombres dans les dépenses publiques à la tronçonneuse et insulte copieusement le plus célèbre des Argentins, le pape François. Théo Manval, Michel Bouilly.
C'est une victoire sans appel pour un candidat anti-système dont le slogan a déjà fait le tour du monde.
Viva la libertad, carajo! Viva la libertad, carajo!
Avec 56% des voix, Javier Milei est donc le nouveau président argentin, lui l'ancien rocker surnommé El Loco, le fou. Entré en politique il y a 3 ans seulement avec cette promesse, mettre dehors la classe politique actuelle.
Aujourd'hui, c'en est fini du modèle appauvrissant de l'État omniprésent qui ne profite qu'à la caste au pouvoir quand la plupart des Argentins souffrent. Aujourd'hui, c'en est fini de cette idée que l'État est au service des politiciens et de leurs amis. Aujourd'hui, nous reprenons le chemin qui a fait de nous un grand pays.
Un discours comme un écho à ceux de Donald Trump, parmi les premiers hier à le féliciter. Tout comme un autre de ses modèles, l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro.
Félicitations au peuple argentin pour la victoire de Javier Milei. L'espoir brille à nouveau en Amérique du Sud.
Mais qui est donc Javier Milei, l'homme à la tronçonneuse, symbole des coupes sombres qu'il promet dans les dépenses publiques? 15% en moins chaque année, en supprimant, jure-t-il, des ministères entiers.
Le ministère de la Culture, dehors. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, dehors. Le ministère des Femmes, du Genre et de la Diversité, dehors.
Climato-sceptique notoire, Javier Milei souhaite aussi interdire l'avortement, libéraliser la vente d'armes ou encore la vente d'organes. Cœur de son programme économique, supprimer la banque centrale d'Argentine et sa monnaie, le peso.
L'Argentine est incapable d'avoir sa monnaie. Je pose une question. Le peso a connu une inflation de 100%, c'est-à-dire qu'il a perdu la moitié de sa valeur. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise monnaie? C'est une mauvaise monnaie. La bonne, c'est le dollar.
Es una mala moneda. Sí, sí. Bueno, eso es el dólar.
Pourtant, arrivé en tête devant lui au premier tour, le ministre sortant de l'économie a donc été balayé. Sergio Massa, ridiculisé en une phrase lors du débat d'entre-deux tours.
Les Argentins doivent élire quelqu'un qui a le calme, les capacités, l'équilibre mental et le contact avec la réalité pour faire avancer l'Argentine.
Et toi, tu l'as ?
La répartie d'un homme dont la santé mentale a parfois questionné tout au long de la campagne. Comme lorsqu'il fait la une de cet hebdomadaire, affirmant avoir reçu 3 visites du Christ, ou s'entretenir avec Dieu grâce au canal de lumière ouvert par son chien. Sa politique étrangère, rompre avec tous ceux qu'il juge communistes, le Brésil de Lula, le Vatican du pape François qu'il n'hésite pas à insulter.
Fils de pute gauchiste qui prêche le communisme dans le monde entier.
Ou encore la Chine, première puissance mondiale.
Je suis un défenseur de la liberté, de la paix et de la démocratie. Les communistes ne le sont pas. Les Chinois ne le sont pas.
À ce stade, Javier Milei n'a toutefois pas de majorité au Congrès pour mettre en œuvre ses promesses, attendues par des électeurs, économiquement au bord du gouffre. L'Argentine connaît une inflation à 137%, un record depuis plus de 30 ans. 4 Argentins sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Dans certains quartiers, les bourses aux vêtements ou vide-greniers sont devenus un moyen essentiel pour gagner de quoi manger.
On vit dans l'incertitude la plus totale. Vous allez au supermarché un jour, vous y retournez le lendemain et les prix ont doublé. J'essaie de faire mes courses pour le mois et de congeler beaucoup de choses. Et je lutte aussi contre l'inflation en payant plusieurs fois. Ma devise est devenue « payer en plusieurs fois maintenant » parce que plus tard, ce sera plus cher.
Selon une étude de l'Université de Buenos Aires, 70% des jeunes Argentins quitteraient le pays s'ils en avaient les moyens. Javier Milei, lui, prendra ses fonctions le 10 décembre.
Comment est-il possible d'être élu avec un tel programme? Les Argentins sont-ils fous? Ont-ils oublié la dictature?
Parce que les Argentins en ont marre de 70 ans de péronisme. L'autre candidat de ces ballotages était Sergio Massa, qui était l'actuel ministre de l'économie. En 8 mois, il a doublé l'inflation de ce pays, qui maintenant est plus de 140%. Ouais. Il y a eu 4 millions de pauvres de plus pendant ces 8 mois. Et c'était lui qui prétendait diriger l'Argentine pour les prochaines 5 années. Donc les gens, surtout les jeunes, ont dit « basta, on n'a plus ».
C'est un électorat jeune qui s'est porté sur la candidature de Javier Milei?
Absolument. Et les jeunes sont en admiration par ce personnage de TikTok, comme je dis, parce qu'il est vraiment quelqu'un qui parle aux jeunes, qui sait parler aux jeunes. Surtout ses outrances, les jeunes adorent, ils sont habitués par les réseaux sociaux. Ils le suivent parce que c'est noir ou blanc. Il n'y a pas de raisonnement compliqué et sophistiqué. Ils adorent l'idée d'avoir le dollar comme monnaie nationale. C'est vraiment un phénomène de cette ère de l'immédiat qu'on est en train de vivre.
Oui. Moi, je pense plutôt, quand on atteint 56% des voix, c'est qu'on a convaincu la classe moyenne. Or, la classe moyenne argentine,
aussi.
La classe moyenne argentine a beaucoup souffert ces dernières années, oui. Et encore une fois, souffre et souffre encore depuis 20 ans. C'est à l'inflation, ça la touche directement. La dollarisation de fait de l'économie, puisqu'en fait, rien de sérieux ne s'écrit plus en dollars en Argentine, le fait qu'il y ait 5 taux de change du dollar à droite à gauche est insupportable à une classe moyenne qui voudrait bien payer en pesos, mais à qui on ne propose que des transactions en dollars. Et pour elle, vous avez raison de souligner, mais il faut quand même que nos téléspectateurs sachent de quoi on parle, que le péronisme a régné pendant 70 ans. Le péronisme a été installé dans les années 30 par un général, général Perón, qui a installé un double système, un système d'État social et un système de libre entreprise. C'est-à-dire un peu proche des États-Unis, grosso modo un système presque à la française d'une certaine manière.
D'accord.
Ou à l'européenne. Ce système perdure depuis 70 ans sans aucune réforme.
Il s'est arrêté en 74.
Voilà. Le général Perón, Louis en l'occurrence, mais il a perduré au travail d'un parti qui s'appelle le péronisme et qui se passe le pouvoir en Argentine depuis quasiment 70 ans, avec quelques alternances à droite et conservatrices. Donc si vous voulez, ce système qui a prouvé qu'il était, vous le soulignez tout à l'heure, l'appauvrissement de l'Argentine, qu'il était incapable de résoudre les problèmes de la modernité et qui plonger le pays dans la pauvreté et l'inflation, eh bien, ce que propose Milei, c'est d'en finir avec lui.
Oui,
c'est très, très sexy pour beaucoup d'Argentins qui souffrent comme personne, qui voient cet appauvrissement, qui en 20 ans, 30 ans, 40 ans, ses enfants et leurs parents ont vu leur cet appauvrissement, qui n'ont pas accès à des comptes à l'étranger, qui n'ont pas accès à la dollarisation, qui sont obligés de vivre là, qui sont assignés à domicile d'une certaine manière en Argentine avec leurs pesos et qui n'en peuvent plus.
À ceux-là, qui n'en peuvent plus et qui ont perdu du pouvoir d'achat, etc., il dit plus d'aide sociale. C'est ça aussi le libéralisme. Peut-être vous, Bruno Meyerfeld, sur ce programme ultra-libéral du nouveau président argentin.
Le programme de Jair Bolsonaro en 2018, lors de son élection, il avait des points communs avec Javier Milei, et notamment le ministre de l'économie de Jair Bolsonaro, qui était Paulo Guedes, qui était un économiste ultra-libéral de l'école de Chicago, lui aussi prévoyait de privatiser la banque centrale, etc., etc. Il y avait des mesures un peu similaires, même s'il n'allait pas jusqu'à la dollarisation. Cependant, Bolsonaro, lui, n'était pas en faveur de mesures aussi libérales, les militaires non plus, qui sont beaucoup plus développementalistes ou nationalistes. On peut imaginer que la réalité, notamment pour un novice en politique, quelqu'un de Milei, devrait assez vite le rattraper et qu'il ne pourra pas passer l'ensemble des réformes ultralibérales qu'il a annoncées, parce que l'Argentine n'est pas une île et parce qu'il y a aussi un congrès qui n'est pas acquis.
effectivement sur le programme économique, on en a parlé, donc réforme de l'État à la tronçonneuse. Vous me disiez pendant le reportage que Thatcher utilisait une balayette, on est monté crescendo. Hein. Baisse des impôts, réduction drastique du nombre de ministères, ouais. Il supprime les ministères, ramené à 8, fermeture de la Banque Centrale, vous l'avez dit, et dollarisation de l'économie. Ça peut être un choc pour l'Argentine de passer au dollar. Est-ce que c'est crédible peut-être avec vous, Sylvie Matelli?
Alors, en Amérique latine, d'autres pays ont tenté, et partout dans le monde, vous avez toujours eu des pays qui, pour réduire l'inflation, rattachaient leur monnaie au dollar ou prévoyaient une parité ou un taux de change fixe avec le dollar. Donc, en tant que tel, c'est pas forcément quelque chose de très nouveau. La petite différence là, c'est qu'on est vraiment sur un remplacement, c'est-à-dire on supprime la Banque centrale, donc on arrête de laisser circuler des pesos et on passe au dollar. Quand vous allez faire vos courses, vous avez besoin d'avoir de l'argent dans votre porte-monnaie. Or, les dollars ne sont pas très abondants. L'Argentine manque déjà de dollars à tel point que la valeur du dollar a très fortement augmenté. Le dollar est beaucoup plus cher aujourd'hui qu'il ne l'était par le passé. Et surtout, les dollars, quand on veut s'approvisionner en dollars, quand on veut avoir des dollars, il faut les payer encore plus cher.
Il dit qu'il y a des dollars dans l'épargne des Argentins.
Voilà. Alors, il fait ce pari-là. Il fait ce pari-là, mais vous croyez que la classe défavorisée, et en particulier la population la plus pauvre, qui s'est encore paupérisée ces dernières années, à cause du Covid et des différentes difficultés liées au Covid, à cause de l'inflation qui a accéléré. L'inflation, il faut bien se rendre compte que on donne toujours des pourcentages et des chiffres qui ne parlent pas forcément aux téléspectateurs.
143%
oui,
en un an.
Mais l'inflation, en 5 ans, les prix ont été multipliés par 13. Ça veut dire que votre baguette de pain que vous payez, que vous pouviez payer, on va rester en euros, hein, 1 euro par exemple en Europe, ça voudrait dire qu'aujourd'hui en France, dans la situation de l'Argentine, vous la payeriez 13 euros. Vous vous rendez compte le choc en 5 ans? En 5 ans, c'est pas rien. Donc là, vous êtes dans une situation où les prix ont augmenté, où vous allez avoir du mal à vous approvisionner en dollars quand vous n'avez pas de l'épargne et des comptes bien alimentés en dollars. Eh bien, autant dire que vous sacrifiez une partie de la population.
C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, Pascal Boniface. Vous expliquez les uns et les autres depuis le début de l'émission que c'est un pays où le taux de pauvreté est à 40%, dont 51% de la population dépend de l'aide sociale. Ils viennent de porter au pouvoir quelqu'un qui leur dit... L'État, c'est fini.
Oui, parce qu'il y a un sentiment profond de déclassement de l'Argentine, à la fois comme puissance et comme société. L'Argentine était le 10e PIB mondial après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Elle se voyait comme le pays phare de l'Amérique latine, pays blanc, pays donc une fois encore occidental dans un ensemble métissé. Et donc les Argentins ont une très haute image d'eux-mêmes. Et là, ce qu'ils voient, c'est un déclassement par rapport au Brésil. C'est assez pénible par rapport à eux. Et puis, ils ont essayé, ils ont essayé le péronisme. Et là, avant, Fernandez, c'était Macri, donc de droite classique. Et ça a échoué. Et l'actuel, le candidat qui a perdu était le ministre des Finances. Donc, ils ont vraiment l'impression... que, en fait, c'est un avion qui va à sa perte, un navire qui coule, autant le faire couler tout de suite d'un coup pour rebâtir de zéro. Parce que ce n'est plus supportable pour les Argentins d'être constamment dans cette inflation, cette paupérisation et surtout ce déclassement, ce déclassement qui est humiliant.
Il faut bien. Mais quelle est la promesse, du coup, de voter pour un candidat qui se dit anarcho-libéral et qui dit, en gros, l'État ne sera plus là pour vous aider?
On a tout essayé, celui-là, on ne l'a pas essayé. Ouais. Et donc, c'est la seule chose qui reste à faire, finalement, parce que la droite, les péronistes, en fait, ils ont tous amené. Macri était une catastrophe pour le pays. Il a fait le plus grand emprunt jamais existant envers le FMI que l'Argentine n'arrive pas à rembourser. Donc, en fait, on a vidé les poches de tout le monde. Et l'inflation, c'est une façon de vider les poches des gens. Parce que quand vous avez une telle augmentation de prix, vous ne pouvez plus rien payer. Et donc, effectivement, eh bien, les outrances, en fait, il y a une telle haine de la classe politique, que celui qui insulte la classe politique devient populaire. Trump a gagné comme ça. Mais en Argentine, au moins Trump était candidat dans un pays qui ne se portait pas si mal que ça. Ouais. Alors que l'Argentine était un pays qui se porte mal, alors que c'était un pays rayonnant, dominant auparavant, et qui est devenu un pays en voie de paupérisation. L'Argentine se tiers-mondise, et pour les Argentins, se tiers-mondiser est humiliant.
Et c'est vrai qu'il y a cette phrase que je livrais au tout début de l'émission, entre l'État et la mafia, je préfère la mafia. C'est dire la haute idée qu'il a justement des élites politiques de son pays. En quoi son programme économique est une promesse de rebond quand on voit ce qu'il annonce pour...
Mais c'est tout casser pour tout recommencer. C'est quand même très très tentant pour une jeunesse qui n'a pas d'autre perspective que pour avoir une vie meilleure qu'éventuellement immigrer en Espagne ou en Italie où tout le monde a conservé la double nationalité pour être sûr qu'en cas de problème, on puisse y partir.
Lisa Corradini.
Effectivement. On casse tout et en arrivant au fond, on pourra renaître. C'est ça l'idée des gens qui ont voté, la plupart des gens qui ont voté pour Milei. Et c'est incroyable parce que, je reviens à ce que vous disiez, lui, il assure que la justice sociale est une aberration dans ce pays que nous venons de décrire.
C'est quoi, ceux qui n'arrivent pas à acheter la baguette de pain qui a été multipliée par 13, il leur dit quoi? Il leur promet quoi?
Mais il, par exemple, il défend les vendeurs à la sauvette. Il dit que ça, c'est l'ultra-libéralisme. Il faut laisser les gens s'enrichir par leurs propres moyens. Mmh. Et que l'État n'a strictement rien à faire là-dessus.
Même en allant jusqu'aux ventes d'organes. Il dit, pourquoi tout doit-il être réglementé par l'État? Ma première propriété, c'est mon corps. Sous-entendu, si vous voulez vendre vos organes, faites ce que vous voulez.
C'est un commerce comme un autre. C'est ça qu'il
si
dit.
Vous voulez vendre et acheter de la drogue, allez-y.
Oui.
Il légalise...
Et les gens,
la vente de drogue.
Et les gens le croient, pourquoi pas.
On a vu qu'il était assez dur vis-à-vis du pape François, qu'il traite, je ne vais même pas redire là, enfin qu'il insulte copieusement, voilà. Sur le terrain des valeurs, il est contre l'avortement, est-ce que c'est un conservateur?
Oui, complètement. C'est un conservateur d'ultra-droite. Du point de vue des valeurs, il s'est rapproché d'un Trump, d'un Bolsonaro. Il y a d'énormes différences. Il faut savoir que lui, il n'a pas de parti. Mm-hmm. Lui, il n'a pas d'appui politique suffisant pour mener à bien ses réformes.
Alors, comment est-ce qu'il est arrivé là? Du coup, il n'a pas de parti. Est-ce qu'il a des réseaux parmi les élites? J'imagine pas. Il est arrivé comme créature de télévision avec vous,
les gens. Voilà, c'est un monsieur qui passe très bien à la télévision. Il a travaillé 15 ans pour l'un des hommes les plus riches de l'Argentine, Ernestine, qui est le propriétaire d'une chaîne de télévision très importante, américaine, et aussi des aéroports pratiquement partout dans l'Argentine et en Amérique latine. Et lui, il passait souvent à la télévision. Et avec ses personnalité complètement farfelue et avec ses outrances, il a convaincu tout le monde.
Il disait que les gens détestaient les responsables politiques, ils avaient envie de les insulter et lui, il les insultait pour eux. Il passait à la télé et donc les gens disaient, c'est formidable, ils disent ce que l'on pense. Parce que faut voir quand même l'état finalement de sidération dans lequel les Argentins peuvent être par rapport à leur situation. Donc quelqu'un qui se sert des hommes politiques comme punching ball, eh bien les Argentins éprouvent un sentiment de vengeance, de revanche, et finalement il vient les venger. Alors après les considérations un peu sur la dollarisation de l'économie, etc., c'est bon. Il prône des valeurs familiales, lui-même n'a pas de famille, n'a pas d'enfants, etc. Enfin, il est en contradiction. Mais en fait, c'est l'outrance qui est vraiment son succès. Et comme l'Argentine va plus mal que le Brésil n'allait mal ou que les États-Unis allaient mal, eh bien, il va encore plus loin dans l'outrance que Trump ou Bolsonaro allaient en leur époque.